De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, un film israélien, trois films français, un film colombo-brésilien et un blockbuster, c'est le sommaire de Cinérama que l'on détaille maintenant. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour
et,
à tous.
Bonjour.
Et pour toi Marine, c'est deux films français.
Oui, alors pour commencer déjà, Mon Inconnu, le nouveau film de Hugo Gélin, comédie romantique que j'ai beaucoup aimé, et également le nouveau film d'Éric Laven, Chamboule tout, et on aura également une interview de José Garcia, d'Éric Laven et de Alexandra Lamy.
Et toi Manu, un film français réalisé par un Israélien?
Synonyme, voilà, le premier film français réalisé par Nadav Lapid. Et puis je vous parlerai aussi de Los Silencio, un film, une coproduction colombienne et brésilienne et française aussi. Mmh.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Tel Aviv on Fire. Là, on reste en Israël et c'est un Israélien mais d'origine palestinienne qui le tourne. Sameh Zoabi, qu'on écoutera, sera la deuxième interview de cette émission. Et puis eh bien, je vous parlerai aussi de Shazam, bien le film de super-héros de DC Comics. C'est Cinérama qui débute maintenant avec Mon Inconnu. On va essayer de savoir si François Civil va remplacer Pierre Niney au box-office.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
Raphaël et Olivia se rencontrent sur les bancs du lycée, un coup de foudre, et 10 ans plus tard, ils sont toujours amoureux, mariés même. Mais Raphaël, encouragé par Olivia qui, elle, a délaissé son talent pour le piano, est devenu un écrivain qui écrit des best-sellers. Sans qu'ils s'en rendent compte, le fossé s'est creusé entre eux et Olivia ne reconnaît plus ce que le succès a fait de son mari. Un jour, Raphaël se réveille dans une réalité alternative où les chemins pris par lui et Olivia sont bien différents. Elle est devenue une pianiste célèbre et lui n'est qu'un simple professeur de littérature, joueur de ping-pong à ses heures perdues.
Faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça?
Ok.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous saviez que c'était mes fleurs préférées?
Coup de bol, quoi.
Marc, tu viens?
Marc, vous êtes l'agent, hein?
Agent et presque mon mari.
Olivia, je peux t'avouer un truc?
Ouais.
Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimés très fort. On a été mariés, c'est pour ça que je sais tout de toi.
Hugo Gélin réalise avec Mon Inconnu son troisième film. On peut dire que le jeune réalisateur a le nez pour les comédiens. Dans Comme des frères, il donnait l'un de ses premiers rôles à un certain Pierre Niney et relançait la carrière de Mélanie Thierry, depuis nominée au César. Dans Demain, tout commence, il donnait l'un de ses rôles les moins inconsistants à Omar Sy et le film dépassait les 3 millions d'entrées. Si Mon Inconnu est, disons-le tout de suite, une comédie romantique plutôt réussie, même très réussie, c'est en grande partie grâce à son casting aussi. Aux côtés de Joséphine Japy, dont le personnage, c'est vrai, est sans doute le moins écrit, mais qui fait preuve d'une grande fraîcheur et d'un véritable talent comique. On retrouve Benjamin Lavergne, alors sans doute âgé de 10 ans de trop pour le rôle, mais il est tellement drôle en même temps qu'on s'en fout un peu, et surtout donc François Civil. François Civil qui est quand même à l'affiche de 4 films cette année, Le Chant du Loup, film de guerre ambitieux et réussi que j'ai chroniqué ici, Celle que vous croyez avec Juliette Binoche, le prochain film de Clapiche qui va sortir prochainement, et donc Mon Inconnu, film où il est de tous les plans et dans lequel il parvient à être autant à l'aise dans le rire que dans l'émotion, faisant preuve d'une alchimie palpable avec ses partenaires, bien qu'il ait peut-être de sa part, c'est vrai, un zeste de surjeu, mais bon, la comédie réclame cela aussi. Les dialogues écrits par Igor Gottesman, à qui l'on doit Five, participent au rythme très enlevé du film, un rythme assez impressionnant. Là où un Guillaume Canet nous inflige 2 heures de comédie avec moult temps mort, Hugo Gélin réussit un film long mais qui ne faiblit jamais. Mon Inconnu est donc ce que l'on appelle une comédie du remariage et qui pousse le concept à son paroxysme en faisant s'interroger le héros sur ses choix de vie. Il y a là une réflexion sur le couple, sur l'éternel dilemme l'amour vaut-il tous les sacrifices, y compris celui de ses propres passions, sur les choix de vie que l'on fait et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Et grâce à cela, ce film qui est en apparence plutôt léger se double d'une belle profondeur et d'une véritable émotion, dépourvue de toute niaiserie, qui rappelle même, j'ose la comparaison, La La Land. Voilà. Ouh. Non, vraiment, je le conseille. Enfin, non, évidemment, sans le côté comédie musicale, bien sûr, rien à voir. Non, vraiment, je le conseille. On passe vraiment un bon moment. Je pense que c'est un exemple de comédie romantique réussie française. Mmh. Et Dieu sait que je ne suis pas cliente.
Eh bien, en tout cas, les exploitants, alors soit ils l'ont vu, soit ils ne l'ont pas vu, mais ils se trouvent dans beaucoup de cinémas en France. Au contraire du film dont nous allons parler maintenant. En quittant son pays, torturé, un Israélien pense être sauvé en arrivant en France. C'est synonyme de Nadav Lapid.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisi.
Alors on peut dire que synonyme, le titre est bien choisi pour ce film, on va dire très, très bavard, mais aussi très visuel. Alors après deux films remarquables, hein, Le Policier et surtout l'impressionnant L'Institutrice, Nadav Lapid poursuit son travail très critique vis-à-vis d'Israël, mais cette fois-ci il ne s'empare pas d'un corps de métier permettant de dresser un état des lieux de son pays, mais d'une situation inspirée d'un épisode de sa propre existence, son arrivée en France dans les années 90. Alors la première séquence, elle détonne par sa force d'incarnation, sa chorégraphie évoquant même la danse contemporaine. Yoav, donc jeune Israélien, qui débarque en France, il rentre dans un appartement vide et gigantesque, se déshabille, prend une douche. Ensuite, en sortant de la salle de bain, il constate que ses vêtements ont disparu. Alors, sachant que faire, déboussolé, il court, il tombe, se relève, descend dans la rue, tout nu en fait. Il tente d'appeler les voisins dans une sorte de surexcitation survoltée et alors pas du tout réaliste. Prétexte pour le cinéaste de filmer un corps nu en action, une masse furieuse créant alors une émotion brute et instinctive. Alors, ce personnage va rencontrer ensuite un jeune couple de bourgeois parisiens qui habitent donc le même immeuble. Alors comme le cinéma français par contre, on n'avait plus filmé depuis au moins 30 ans. Alors cette plongée anachronique au cœur de la nouvelle vague ne constitue pas le meilleur du film. Quentin Dolmer qui jouait je crois chez Depéchin et Louise Chevillotte alors, paraissent déconnectés d'un récit qui trouve son énergie ailleurs. Alors ces deux figures, on va dire un peu ectoplasmiques, hein, bobo anachronique, alors que même Philippe Garrel n'oserait même pas filmer, alors vont se prendre d'affection pour le jeune chien fou en rébellion contre un système, un mode de pensée, mais surtout contre lui-même. Ils vont l'aider comme ils peuvent, avec la facilité des gens aisés, hein, en lui donnant de l'argent et puis un peu de leur temps. Alors, vu qu'ils n'ont rien d'autre à faire, à part à un moment donné de dire qu'ils gèrent une usine, mais c'est un passe-temps. Enfin, c'est un petit peu curieux, en fait, hein, tout ça. Mais Yoav cherche aussi une autre issue, une porte de sortie, une ouverture, quitte à se fracasser un peu partout, au sens physique du terme. Alors, son parcours l'amène à l'ambassade d'Israël pour trouver du travail. Alors, c'est un peu paradoxal ou un peu incohérent dans le scénario puisqu'il veut fuir un pays, mais en même temps, il retourne à l'ambassade, il s'y rattache. Voilà, c'est un peu étrange. Alors, il fuit son pays, sa langue qu'il refuse de parler. Alors, des flashbacks aussi indiquent qu'il officiait dans l'armée et on suppose, alors c'est pas parce que... il n'est pas dit pourquoi il a fui son pays. Je pense que c'est pas parce qu'il était torturé, mais c'est parce qu'il a dû commettre en fait des actes, on va dire, répréhensibles à l'armée.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici ?
Je ne sais pas. Je serai français.
Ça ne suffit pas ?
Partir, repartir.
Pas vite, ça va.
Attends, c'est bon.
Rouler, bien rouler. Surtout en parlant d'une femme. La vie est sublime.
La France, la France. Tu connais qui comme français à part nous deux ?
Céline Dion.
C'est drôle, fille.
Alors, c'est drôle, oui. Je ne connais pas française, mais bon. Alors, Yoav, hein, ce personnage en constante ébullition, au bord de la rupture, alors tout droit sorti d'un film de Zulawski, alors il s'empare de la langue française, débite à toute allure des mots appris dans le dictionnaire. À travers cette soif de mots mitraillés au point de finir par agacer parfois, il tente de forcer le destin, de s'accaparer une culture qui n'est pas la sienne. Alors, Nadav Lapid investit le champ du cinéma français avec un culot et une candeur qui laisse perplexe. Fuyant le naturalisme, le cinéaste israélien multiplie les artifices. Alors il déploie une grammaire visuelle aussi riche que qu'assommante parfois. Hein. Alors on a droit à tout, images accélérées, plans séquences virtuoses, les décadrages, un montage cut, tout y passe avec une frénésie époustouflante, mais dont on cherche parfois le sens. Alors synonyme hein, par sa narration heurtée, il n'y a pas de scénario du tout linéaire, on passe du coq à l'âne toutes les 5 minutes, ses brusques envolées lyriques, sa poésie brute, ses références littéraires rappellent le cinéma de Jean-Luc Godard. Alors une colère saine anime ce film bancal mais vivant, alors dont on ne saisit pas toujours le propos, à force de prendre des chemins de traverse, de dériver, de se contredire. Mais ne serait-ce pas finalement le simple portrait d'un, on va dire, d'un jeune homme perdu en quête d'identité qui, en fuyant un régime, bah, cherche avant tout à se trouver lui-même. Et puis, une sorte de le chaos visuel correspondrait à son chaos, à son propre chaos intérieur. En tout cas, le film mérite vraiment le détour, ne serait-ce que pour, je dirais, l'impressionnante prestation de Tom Mercier, dont c'est le premier rôle au cinéma. C'est-à-dire que là, c'est un acteur, je dirais, complet. C'est pas simplement une voix, un visage, c'est aussi un corps. Enfin, c'est assez incroyable, sa performance est vraiment incroyable.
En tout cas, la critique est unanime, hein, sur toi tu nuances un peu...
Je nuance un peu parce que c'est quand même un film très particulier. Hein.
Voilà, en tout cas très apprécié, ce film donc français réalisé par un Israélien. Et maintenant nous allons écouter un Israélien d'origine palestinienne. C'est la première interview de cette émission avec Sameh Zoabi.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Encore un film donc israélien à l'écran, mais celui-ci a de quoi surprendre car il est réalisé donc par Sameh Zoabi, un cinéaste palestinien né à côté de Nazareth, la plus grande ville arabe d'Israël. Sameh Zoabi connaît l'hébreu comme l'arabe et n'a aucun mal à se faire financer, que ce soit par des Palestiniens ou des Israéliens, et il y a même un peu d'argent français. Alors en 2012, il avait sorti Téléphone arabe, un film qui prenait la situation d'une ville arabe en Israël et qui nous donnait l'occasion de voir comment les habitants, les jeunes hein, notamment, vivaient le conflit. Avec Tel Aviv on Fire, il reste dans la comédie douce et va un peu plus loin dans le constat politique. On suit Salam, la trentaine qui vit à Jérusalem. Il a l'occasion alors d'être stagiaire sur un soap-opéra arabe à succès qui s'appelle Tel Aviv on Fire, donc qui donne le titre au film. Alors il se trouve qu'il est produit par son oncle, ce soap-opéra, c'est très pratique, sauf que lui, eh bien, Salam doit faire la route tous les jours de Jérusalem à Ramallah en passant par le même checkpoint. C'est là qu'un jour, voulant vérifier qu'une expression israélienne est adaptée à l'écran, avec le terme « bombe » dedans, hein, quand même, il se fait arrêter par Assi, le chef de ce checkpoint, qui prend alors au premier abord une page du script de la série pour un document militaire. Car précisons-le, le nœud dramatique de la série « Tel Aviv on Fire » est simple, nous sommes en 67, une espionne palestinienne amante d'un cadre des services secrets palestiniens doit parvenir à dérober à un général israélien les plans d'une offensive en préparation. Alors, si la vedette féminine est censée être une actrice française, en fait la belge Loubna Azabal, qu'on a vu dans Incendie, eh bien le reste de la série est fait de décors rudimentaires, la mer en poster, des cadres insignifiants, des costumes à l'avenant et des acteurs pas forcément convaincants. Celui qui joue notamment le général israélien à fort accent palestinien. Et il y a même une scène drôle, hein, quand on lui demande de jouer un général plus doux, lui, cet acteur palestinien qui a passé 7 ans dans les prisons israéliennes, trouve que bon, c'est un peu compliqué pour lui. Alors cette série fait un carton, aussi bien en Palestine qu'en Israël. Alors très simplement, le réalisateur fait de ce soap-opéra une analogie avec le conflit palestinien qui n'en finit pas de ne pas finir. Le film prend un tournant quand notre stagiaire palestinien, eh bien, pour se sortir d'un mauvais pas, se fait passer par le scénariste officiel de Tel Aviv on Fire auprès du responsable du checkpoint. Le gradé lui fait alors du chantage en échange de sa liberté de mouvement. L'Israélien Nassi, grand amateur de hummus, va vouloir mettre son grain de sel au scénario, d'autant que sa femme, eh bien, est une grande fan de la série et ça va lui permettre de la reconquérir. Et à tel point, eh bien, que le soap opéra sera bientôt accusé par les médias palestiniens d'être carrément sioniste. Bon. Et tout va devenir bien compliqué quand le scénariste aura le choix entre lancer les spectateurs sur une histoire amoureuse entre l'espionne et le général israélien, faire une fin hollywoodienne en hommage au Faucon Maltais où le devoir, eh bien, prend le pas sur les sentiments, et quand même une version exigée par les financeurs, hein, qui veulent que la cause palestinienne, elle, soit souveraine. Les rivalités se font donc scénaristiques. Le réalisateur nous gratifie d'un long métrage relevé, jamais ennuyeux, où la comédie douce l'emporte sur le drame historique. Il va s'en expliquer, Sameh Zoabi, à notre micro.
Le concept du film était que le soap-opéra et la réalité commencent à fusionner, parce que la vraie vie, le conflit israélo-palestinien, est comme un soap. On n'en voit pas la fin.
Je connaissais déjà à peu près tous les acteurs, donc quand j'ai écrit les films, je savais qui allait interpréter les personnages. Les deux seuls acteurs difficiles à trouver sont ceux qui ont interprété Salam et Assi, donc le Palestinien et l'Israélien. J'ai fait passer beaucoup d'auditions et pensant que je voulais faire une comédie, eh bien beaucoup d'acteurs se sont montrés drôles. Mais il est évident que je ne voulais pas faire une comédie légère. Donc quand j'ai choisi les acteurs, je les ai choisis avant tout eh bien, sur leur talent dramatique. Kaïs Nashif, qui joue le rôle de Salam, m'a d'ailleurs semblé trop dramatique pour ce rôle. Tous les rôles qu'il a joués sont souvent dramatiques, comme dans Paradise Now, hein, qui est sur le suicide, ou alors il joue des amoureux transis et dépressifs. C'était un choix dangereux. Mais quand j'ai trouvé celui qui allait lui donner la réplique en interprétant le rôle d'Assi, eh bien c'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Son énergie était très différente de celle de Salam. C'est très difficile d'écrire sans ressentir la part de responsabilité qu'on a sur le conflit. Je pense que les Israéliens sont un peu plus libres que les Palestiniens. Ils peuvent raconter dans leurs films et bien d'autres histoires. Nous, Palestiniens, on raconte d'abord le conflit, la difficulté d'exister. Ce conflit est très peu visible au niveau du cinéma mondial parce que qui d'autre peut s'emparer de cette histoire ? Le cinéma palestinien commence tout juste depuis 15 ou 20 ans maintenant à être visible au niveau mondial. On a beaucoup de temps à rattraper. À mon sens, l'humour a beaucoup de fonctions. Alors tout d'abord, ça permet une connexion universelle entre les hommes. De son côté, l'humour politique permet de dire plus de choses sans que ça soit mal perçu. Par exemple, la scène dans laquelle Salam, le Palestinien, rencontre Assi, le chef du checkpoint, pour la première fois, eh bien, Salam lui demande « Est-ce que tu regardes le programme Tel Aviv on Fire ?» L'autre lui répond « Mais c'est antisémite comme série. » Et Salam de rétorquer « Mais tu t'attendais à quoi ?» Si on s'attardait sur le sionisme et l'antisémitisme dans un drame, alors là, on risquerait gros. Mais comme c'est une comédie, eh bien, on peut en rire. Voilà, nous avions rencontré Sameh Zoabi au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Si Tel Aviv on Fire ne passe pas bien sur vos écrans proches de vous, vous pouvez vous rattraper avec donc son film de, c'était il y a 5 ans, je crois, donc Téléphone arabe, qui est aussi eh bien, un film, une comédie vraiment douce et très intéressante, qui permet de pointer sur, bien sûr, ce que vivent les habitants là-bas avec ce conflit israélo-palestinien. Nécessité du pardon et réconciliation, c'est avec Los Silencios.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, les premières images nocturnes instaurent d'emblée une atmosphère étrange à la lisière du fantastique dans ce film Los Silencios. Une barque accoste sur le rivage, filmée en caméra subjective. Alors, pas de musique, juste un environnement sonore magnifiquement mis en valeur. Le bruit de l'eau se mêle au chant, si on peut dire, des insectes et des animaux, créant une ambiance à la fois inquiétante et familière. Alors, ce dispositif auditif, qui fruit d'un travail mixant une multitude de sources sonores, va imprégner tout du long Los Silencios, fable envoûtante et singulière, plus contemplative que réellement silencieuse. Dans ce climat, en pleine nuit, Amparo et ses deux enfants, Nuria, 12 ans, et Fabio, 9 ans, débarquent sur une île, Fantasia, un nom prédestiné, vu le sujet du film, située au cœur de l'Amazonie. Alors, fuyant le régime colombien en pleine guerre civile, elle se réfugie cette attente totalement démunie, son mari étant porté disparu, alors probablement décédé avec un de ses fils. Alors, dès son arrivée, dans cette contrée marquée par la pauvreté, une contrée quand même apaisante, loin de la fureur et de la violence des balles, elle tente de s'intégrer. Elle se démène comme elle peut pour offrir à ses enfants un minimum de sécurité. Le second long métrage de la jeune réalisatrice Béatrice Seigné affiche une très grande maturité dans la manière d'introduire son récit avec une douceur tranchant avec la gravité du sujet. Alors elle ne cherche pas l'adhésion immédiate du spectateur avec un style coup de poing qui serait hérité, on va dire, d'une forme de néo-réalisme. Au contraire, elle prend son temps, impose un rythme assez lent, trop sans doute, privilégiant les longs plans larges et fixes, baignant dans une lumière splendide, essayant alors d'étoffer un fond par la seule puissance des images. Alors pas de caméra à l'épaule, ni de gros plans sur les visages, mais toujours des cadrages soigneusement élaborés, cherchant davantage à cerner une vérité, à capter une authenticité topographique en filmant les lieux avant de dévoiler la véritable nature du film, qui emprunte alors au départ, on va dire, la voie d'un drame social. Alors Béatrice Seignier décrit avec beaucoup de justesse le quotidien de ces expatriés, et plus précisément les déplacés, devant se confronter aux difficultés administratives. Alors les inscriptions à l'école et à la cantine, la déclaration de la disparition du mari afin de toucher une compensation financière, la recherche de travail, la demande de statut de réfugié. Alors sans effet mélodramatique ni insistance, la réalisatrice observe minutieusement cette famille se démenant pour vivre en adoptant le plus souvent le point de vue de la jeune fille Nouria, personnage mutique et attachant. Alors le film privilégie dans un premier temps un regard pédagogique distancié sur la situation précaire des conditions de vie qui sont très difficiles sur l'île, pour s'orienter ensuite vers le conte allégorique, introduisant alors un élément surnaturel, l'apparition du père. Los Silencios n'entretient aucun doute, basculant délibérément du côté du film de fantôme. Cette intrusion alors bienveillante du fantastique s'intègre le plus naturellement du monde à son approche réaliste. La combinaison, on va dire, entre les éléments irrationnels et le contexte social distingue le film du tout venant de la vague de production provenant d'Amérique du Sud, d'ailleurs assez importante depuis quelques années. Les morts s'invitent et se confondent au milieu des vivants, reprennent leur place d'origine, alors ils ne sont pas effrayants, ils incarnent juste l'image forte et poétique de citoyens qui devraient être présents aux côtés de leurs proches si la Colombie n'était pas ravagée par la guerre civile. Alors cette dimension politique est filmée avec le regard apaisé d'une artiste qui aborde le cinéma à la manière d'un peintre, sachant redonner la dignité, de la splendeur à un décor sordide et surtout à des silhouettes anonymes victimes d'une guerre qui les dépasse. Alors portée par de remarquables comédiens, professionnels ou non, Los Silencios s'avère une œuvre vraiment ambitieuse et atypique, derrière sa chronique sociale inspirée, alors dérive vers des contrées plus troubles, imprégnées par le réalisme magique, cher à la littérature sud-américaine, mais aussi alors plus éloignée géographiquement par le cinéma, fantomatique d'Apichatpong Uehara Zeta Cool, ou du Kiyoshi Kurosawa de Vers l'autre rive, avec cette sensibilité commune de filmer les morts comme des êtres de chair et de sang, en fait.
Autre ambiance avec la deuxième interview de cette émission, José Garcia, Alexandra Lamy, Éric Lavenne pour Chamboultou.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Chamboultou, donc c'est le nouveau film de Éric Lavenne. Alors Éric Lavenne qui porte bien son nom, car on ne sait pas trop pourquoi, mais alors tous ses films marchent. C'est également sa troisième collaboration avec Alexandra Lamy, après L'embarras du choix et Retour chez ma mère. Alexandra Lamy interprète ici Béatrice, et je le reconnais, elle gagne d'ailleurs ses galons d'actrice. Ça aura mis un peu de temps, mais ça y est, on peut dire que c'est bon. Béatrice, donc une femme sans histoire, dont la vie est chamboulée un jour, lorsque son mari, interprété par José Garcia, devient aveugle suite à un accident. Forcée de prendre soin de lui et d'adapter sa nouvelle vie aux besoins de son mari, elle se laisse aller à prendre un amant et surtout à raconter son parcours dans un livre qui s'apprête à sortir. Et le film, finalement, s'attarde davantage sur ce point que sur une histoire de couple. Pensant réunir tous ses amis pour un week-end en bord de mer, Béatrice va devoir affronter l'ego de chacun, blessée de se reconnaître dans les pages qu'elle a écrites. Alors Chamboultou, sans être foncièrement raté, souffre du problème inhérent à beaucoup de comédies françaises actuelles. Déjà visuellement, on met sur le visage des comédiens un espèce de filtre qui rappelle les pires séries des années 90. Et ensuite, j'aimerais bien connaître l'âge des scénaristes. Mais je pense qu'à un moment, il faut songer à la retraite. Non, vraiment, contrairement à Mon inconnu, l'écriture ici n'est aucunement moderne, se contentant de ressasser les mêmes idées, ne proposant pas un seul bon mot, ni un seul gag, et surtout obligeant les comédiens à dire des dialogues mais qui ne sonnent jamais juste. Chamboultou n'est pas une comédie désagréable, c'est juste un rassemblement de quinquagénaires pas très drôles qui débouche sur une réflexion autour de l'amitié finalement assez misanthrope, heureusement portée par un duo excellent et notamment par un José Garcia qui réussit très intelligemment à construire un rôle inattendu autour d'un personnage aveugle qui dit tout ce qu'il pense. On va justement l'écouter en compagnie de Alexandra Lamy et de Éric Lavenne, qui lui aussi va nous dire tout ce qu'il pense. Bon, j'ai beau ne pas être très fan de ses œuvres, je reconnais que l'interviewer est toujours un plaisir. On les écoute.
Alors, ça raconte quoi ?
Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans.
Votre mari, il a eu quoi comme problème ?
Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle.
Dans la vie d'Alexandra, dans la vie de Béatrice dans le film, il y a eu deux grands chamboulements. L'accident de son mari et puis surtout la sortie du livre et le chamboulement qu'il y a eu dans le groupe d'amis, puisqu'en fait dans son livre elle parle de ses amis et les amis vont pas très bien le prendre. C'est pour ça que ça s'appelle Chamboultou.
Vous parlez de vos amis dans le livre, vous leur avez fait dire à votre...
Pas encore, mais ça va leur plaire, enfin s'ils se reconnaissent.
Oh, je me souvenais pas de ça.
Mais c'est vrai quoi, on est avec elle.
C'est un livre, oui.
Dans chaque personnage on retrouve forcément des amis, enfin ceux qu'on connaît, parce qu'il y a le radin, il y a la jalouse, il y a tout ça. Je trouve que c'est la vie, et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'a fait Eric du film, c'est-à-dire qu'on rit, on est touché, on est dans des ascenseurs émotionnels entre le rire, les larmes, c'est touchant, c'est évidemment pas triste, mais au contraire, on se retrouve tous à partir avec tous ces personnages-là de jalousie, d'envieux, de radins, etc. Et c'est très, c'est la famille, c'est les amis. Là, pour avoir fait des tournées province, j'ai l'impression que les spectateurs se retrouvent un peu partout dans ce film-là.
Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis tout fondre.
J'en sais rien.
T'en sais rien? Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée.
Dans Chamboule-tout, ce que j'aime, c'est qu'en dehors de ces, des deux rôles d'Alex et de José, il y a des, j'aime pas ce mot, rôle secondaire, il y a ces rôles à côté qui sont extrêmement forts. Et je les aime tous. Même Anne-Marie Vin, qui semble très méchante, elle me touche. Ludivine Chastonnet, elle me touche. Jean-François Quéré, qui est radin, ou qui fait croire qu'il connaît le sens du mot velléitaire, ça me touche, parce qu'on est tous pareils. Parce qu'on n'aime pas être en échec. Moi, tu me demandes, si Alex, elle pense que je suis intelligent, elle me demande un mot dont je ne connais pas le sens, je vais essayer de trouver une pirouette, ça m'emmerde de lui dire non, je ne sais pas. Et être radin, c'est une souffrance. Donc je veux dire que voilà, moi je suis en empathie avec tous les personnages, mais en empathie, être en empathie, ça ne veut pas dire ne pas... c'est pas rose, hein. Je ne cherche pas à ce que les gens soient sympathiques ou pas sympathiques, ils sont tels qu'ils sont dans la vie.
Quand j'étais avec une fille, je disais à Nadia que j'étais en fait avec Fred pour regarder du foot. Fred, il sait tout sur moi et il a plus de filtre.
Alors t'étais où? T'étais au foot et t'as baisé.
Le rôle de José, c'est un cauchemar dans un groupe d'amis, parce que lui c'est,
ah oui.
c'est au-delà de la franchise, c'est-à-dire que comme il n'a pas de filtre, il n'a plus les codes sociaux, le mec balance tout. Et sujet qu'on sait très bien que les vérités, il n'y a pas plus con que les mecs qui disent oui, il faut dire les vérités en face. Non, surtout pas. Et le problème, c'est que là, et dans le rôle de José, ce qui est intéressant, c'est que il n'a donc plus de mémoire immédiate, plus de filtre, mais il se souvient de tout. Et avant, il avait suffisamment de neurones pour savoir que quand Michael Youn allait voir, il n'allait pas balancer les choses. Et là, maintenant, il peut tout balancer. Donc c'est vrai que c'est une grenade dans un groupe d'amis, un type comme José.
Je ne dois jamais le voir en présence de Nadia.
T'as bien roulé?
Ouais.
Et on a fait bonne route, ouais.
Et on a eu vraiment très bonne circulation là-bas, tu vois, ça a bien roulé.
T'as
juste
venu,
un petit peu de sur la fin, voilà quoi.
Et t'as baisé.
Ben voilà, ça se termine bien. Allez, on passe à un adolescent dans un corps d'adulte avec des super pouvoirs à ne savoir qu'en faire, c'est Shazam.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu prendrais lequel? Tout le monde dit pouvoir voler. Tu sais pourquoi?
Pour s'envoler loin de cette conversation?
Non, parce qu'un héros, ça vole!
Eh bien voilà, c'est fait. DC Comics innove. Il range ses super-héros sérieux en tenue moulée, les Superman, Wonder Woman et Batman, pour des super-héros novices. C'est plutôt drôle. Avec Shazam, le studio américain surprend, car la déconnade est d'habitude plutôt du côté des studios Marvel. Le meilleur exemple étant Deadpool, un super-héros à l'humour régressif qui a conquis des millions de spectateurs qui ne se laissent plus avoir par les effets spéciaux et les 2-3 enjeux dramatiques que charrie l'univers des super-héros. Alors il y a un an, Marc Millar, le scénariste créateur notamment de Kick-Ass et de Kingsman, avait indiqué que DC Comics ne parvenait pas à faire de bons films pour une raison simple, les personnages étaient centrés sur leurs super-pouvoirs mais sans ajouter de complexité à leurs personnages. Il ne parlait pas alors de Batman mais plutôt de super-héros comme Green Lantern. Avec Shazam, les pouvoirs ne sont pas le seul enjeu du film réalisé sans fausse note par le Suédois David F. Sandberg, où disons plutôt que l'enjeu du film est d'apprendre à se servir de ses pouvoirs, mais aussi de se réconcilier avec l'existence et plus précisément avec sa famille, et là en l'occurrence sa famille d'adoption. Alors Shazam est une vieille BD des années 40. Alors à l'origine, le super-héros s'appelait Captain Marvel, mais en 2011, eh bien, il a dû être rebaptisé pour ne pas créer de confusion avec le concurrent américain. Shazam est un acronyme regroupant les noms des dieux qui ont donné ses pouvoirs aux héros. Tous d'ailleurs ne sont pas exploités dans le film. Alors il y a Salomon, il y a Hercule, il y a Atlas, il y a Zeus, il y a Achille. J'avais prévu de vous faire le détail, mais on va passer vite fait. L'attrait du film et de cette histoire est qu'il met un temps à arriver, ce super-héros, et d'avoir pleinement ses pouvoirs, ce qui permet de dévoiler d'autres personnages. Pour faire court, un sorcier qui sent bien que ça ne peut plus durer hein, comme ça, doit léguer ses pouvoirs à un cœur pur et vaillant. Il doit trouver son champion et finit par tomber sur le jeune Billy Batson, un orphelin toujours à la recherche de sa mère et qui est placé dans une famille d'accueil XXL puisqu'on y trouve 5 autres gamins.
Billy Batson, je te choisis comme champion. Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Shazam.
Quoi, sérieux?
Silence!
Ok! Shazam?
Le voilà musclé, hein, en tenue rouge tapisserie, cape blanche et éclair sur le poitrail. Une tenue un tantinet surannée, comme cette expression, mais complètement assumée et exploitée sur le ton de la comédie. La première partie du film consiste donc pour Billy à accepter ce nouvel état et de comprendre de quoi il est capable. Alors il reste que Billy demeure un adolescent de 14 ans, projeté dans un corps d'adulte. Et ses premières décisions ne sont pas de réparer l'injustice dans le monde. Il est puéril, égoïste, spontané, parfois inconséquent. Et son camarade de famille d'accueil ne l'y aide pas non plus. C'est le personnage le plus drôle et le plus réussi. Spécialiste du monde des super-héros, marchant avec des béquilles, c'est lui qui supporte son camarade et qui lui fait passer les tests de validité de pouvoir.
C'est quoi tes super-pouvoirs ?
Mes super-pouvoirs ? Je sais même pas comment pisser avec ce truc !
T'as une force surhumaine ! Tu résistes aux projectiles !
Je suis super pare-balles !
Mais il y a d'autres personnages hein, dans cette famille d'accueil où atterrit Billy. On trouve la bavarde trop choupie, le génie en informatique, l'ado en surpoids ou encore la bosseuse. Face à ce petit monde, un méchant, un presque orphelin qui a pris sa revanche sur un père méprisant en s'emparant de pouvoirs terrifiques mus par les sept péchés capitaux. C'est Mark Strong qui s'y colle. Si le jeu reste monolithique et le traitement toujours manichéen, le prologue du film introduit le personnage et lui donne une épaisseur. Ce prologue inaugure d'ailleurs la thématique de Shazam, le personnage du très vilain qui est méprisé dans son enfance. Par son père, eh bien, va croiser le super-héros qui, lui, a été abandonné par sa mère. On obtient là un produit entre le teen movie et le film familial, puisqu'il brasse justement les questions des liens familiaux. Alors cela devrait permettre sans doute à un large public de trouver son compte. Les scènes comiques sont largement réussies, grâce à des personnages bien exploités. La mise en scène n'est pas des plus audacieuses, mais le récit ne s'embourbe pas eh bien, dans des bastons interminables qui restent très lisibles. Le film, finalement, est un solide divertissement avec un jeu de Zachary Levy, qui donc interprète le super-héros, qui est plutôt impeccable parce qu'il doit jouer un adolescent dans un corps d'adulte, et c'est plutôt bien rendu à l'écran. Ainsi s'achève Cinérama.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on écoutera une courte interview de Fernando Salinas.
Et je vous parle de Captive State.
Et Cimetière.